Un après-midi à l'Opéra de Monte-Carlo. En ces temps de pandémie où les salles de spectacle sont fermées, il maintient sa programmation de la saison 2020-2021 pour le plus grand bonheur de tous ses habitués et aussi des autres. Les 22, 24, 26 et 28 janvier dernier, Thaïs, comédie lyrique en 3 actes et 7 tableaux de Jules Massenet, était à l'affiche. Un horaire unique, 14h, pour cause de couvre-feu à 19h et, naturellement, le respect le plus strict des gestes barrières. Ces représentations n'étaient pas uniquement fréquentées par un troisième âge entièrement libre de son temps. On y rencontrait comme toujours un public varié, dont celui venu des départements français limitrophes et de l'Italie voisine. L'œuvre était d'autant plus attendu qu'elle n'avait pas été donnée depuis plus de 70 ans dans ce splendide opéra de Monte-Carlo dû au plan de Charles Garnier, l'architecte de l'opéra de Paris, et inaugurée le 25 janvier 1879. La série de représentations avait alors commencé le 25 février 1950. Dans le rôle titre, on remarquait Denise Duval, dont le nom est à jamais lié à certaines œuvres de Francis Poulenc. Quant à la véritable première en principauté, elle avait eu lieu le 15 février 1913, suivie de 2 autres représentations les 23 février et 27 mars, avec Maria Kuznetsov, une habituée de la maison dans le rôle de Thaïs. Le critique musical André Corneau parlera de tempête d'applaudissements et il terminera ainsi son article du 16 février 1913 dans le journal de Monaco. Et la pièce et les interprètes succombèrent sous le fait des acclamations. En ce temps-là, la saison commençait en janvier et le directeur était le célèbre Raoul Gainsbourg qui a régné sur l'opéra monégasque de 1892 à 1951 et a forgé sa réputation internationale. Il avait par ailleurs réalisé la mise en scène et l'orchestre était dirigé par Léon Géhin, personnalité indissociable de la vie musicale de Monaco durant une trentaine d'années. La création de Thaïs remontait au 16 mars 1894 à l'Opéra de Paris avec Sybil Sanderson, la soprano américaine, fidèle interprète de Massenet. Il en avait commencé la composition en 1892 et fera subir à l'œuvre plusieurs transformations. Une partie de la critique avait été scandalisée par l'histoire de cette courtisane d'Alexandrie, devenue sainte et qu'on a longtemps honorée le 8 octobre. Le 13 avril 1898, elle sera reprise à l'Opéra de Paris dans sa nouvelle version définitive. Au commencement était un poème de plus de 200 vers d'Anatole France, la légende de Sainte Thaïs, comédienne publiée en 1867 dans une éphémère revue, Le Chasseur, bibliographe, puis du même auteur, Thaïs, conte philosophique, paru dans la revue Des Deux Mondes en juillet-août 1889 et l'année suivante sous le nom de Thaïs chez l'éditeur Kahneman Lévy. En 1894, Louis Gallet en tire un livret dont s'inspire le compositeur. Au lendemain de la création de Thaïs à l'Opéra de Paris, Anatole France s'était adressé en termes fort élogieux à Massenet. « Cher maître, vous avez élevé au premier rang des héroïnes lyriques ma pauvre Thaïs. Je suis heureux et fier de vous avoir fourni le thème sur lequel vous avez développé les phrases les plus inspirées. » Cette nouvelle production de Thaïs en collaboration avec l'Opéra de Hong Kong est due à Jean-Louis Grinda, par ailleurs directeur artistique de l'Opéra de Monte-Carlo, qui en a assuré la mise en scène comme toujours élégante. Jean-Yves Aussons, grand connaisseur de la musique lyrique française, est à la tête de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. La célèbre méditation de Thaïs, si révélatrice du drame qui se joue, était interprétée avec beaucoup d'émotion par Lisa Kerob, premier violon de l'orchestre. Une très belle distribution, entièrement francophone, excepté la soprano lettonne Marina Rebecca, qui interprète le rôle de la pécheresse repentie avec une excellente élocution française, en habituée de ce rôle qui lui est familier depuis le Festival de Salzbourg de 2016. On retiendra aussi, et on ne s'en étonnera pas non plus, la perfection du baryton Ludovic Tessier dans le rôle de l'anachorète Athanaël, le rédempteur de l'héroïne accablée par ses fantasmes. On peut ajouter que le reste de la distribution était de premier plan. Massenet connaissait déjà Monaco quand il s'y rend en 1902 pour la création de son opéra Le Jongleur de Notre-Dame. À cette occasion, le prince l'avait fait grand croix de l'ordre de Saint-Charles. Les deux hommes s'appréciaient. Albert Ier ne lui disait-il pas « Votre musique baigne les âmes d'une atmosphère de bonté qui sort de votre cœur. La vie semble plus facile quand on s'en imprègne. » Pour sa part, le compositeur déclarait lors d'un de ses séjours « Le rêve commençait. Faut-il dire tout ce qu'ont de merveilleux séjours passés comme un songe dans ce paradis dantesque au milieu de ce décor splendide, dans ce luxueux et somptueux palais tout embaumé par la flore des tropiques. Le prince avait commandé à celui qu'on appelait l'enfant chéri la cantate « La nef triomphale » pour chœur et orchestre pour l'inauguration du musée océanographique de Monaco le 29 mars 1910. Le 7 mars 1903, Massenet est à nouveau à Monaco pour l'inauguration d'un monument à Berlioz. 6 autres de ses opéras furent créés à l'opéra de Monte-Carlo. Chérubin en 1915, Thérèse en 1907, Don Quichotte en 1910, Roma en 1912. Les deux derniers Cléopâtre en 1914 et Amadis en 1922 le firent de façon posthume. Le compositeur étant mort le 13 août 1912 à l'âge de 70 ans. Le 23 février 1914 était inauguré sur les terrasses du casino de Monte-Carlo le buste de Massenet dû au sculpteur russe Léopold Bernard Bernstam.